Voilà, on est aujourd'hui le mardi 5 av, on est le 21 juillet. Le cours sera pour la guérison de Raphaël Dan, Ben, Johanna et Rivka, ainsi que pour la réussite totale dans tous les domaines des familles Topiol, Carole et Kraut, Irène. Ainsi que pour la Refoua Shelema de Daniel Denis, Ben, Diamante, de Maxou, Max, Fredj, Ben, Tefana, Amram, et ainsi que pour l'élévation de l'âme de Zari Bat Miriam et la réussite dans tous les domaines de Yehoshua Ben Eliaou Ve Simcha. Alors, on va essayer aujourd'hui de, je ne sais pas si on y arrivera, on va essayer de composer à la fois, on est à la veille de Tisha B'Av, bien qu'il y a déjà pas mal de cours sur Tisha B'Av, il y en a un qui a été donné lundi, qui est sur le site, il y a celui de ce matin, qui sera bientôt sur le site, celui de demain matin, qui sera aussi sur le site, donc il y aura déjà trois cours sur en préparation sur Tisha B'Av, et aujourd'hui on va continuer un petit peu dans l'esprit de Tania, mais je suis sûr et certain qu'on arrivera à composer aussi avec Tisha B'Av. Quoi qu'il en soit, on commence maintenant le chapitre 16 à la page 42, et il dit « Veze klal gadol be'avodat Hashem » Je vais maintenant te révéler quel est le véritable fondement, le klal gadol, de la avodat Hashem, donc je ne vais pas traduire en français parce que ça ne se traduit pas, mais finalement de ce que Hachem nous demande dans sa relation, dans notre relation avec lui. La Benoniim, bien sûr, ce klal, ce principe va être révélé au Benoniim, c'est-à-dire vous et moi, c'est-à-dire donc, comme on l'explique déjà depuis de nombreuses semaines, ceux qui sont d'une certaine manière les vrais humains, ceux pour qui le monde a été créé. Le monde n'a pas été créé pour les méchants, le monde n'a pas non plus été créé pour les justes, ceux qui arrivent à un niveau de spiritualité qui est hors du commun, qui font que de toute façon ils se marginalisent par rapport à la grande majorité des humains. Le monde a été créé pour vous et moi, c'est-à-dire pour cette majorité qui n'est ni vraiment juste, ni vraiment méchante. Et donc, le klal gadol, la benoni, ma ikar ou, l'essentiel ou, l'imshol ou l'ishlot ala teva, shebechalal asmali. Finalement, nous ne sommes sur terre que pour arriver à être plus forts que notre nature. L'imshol ou l'ishlot à la teva, motamo, l'imshol, dominer, l'ishlot, contrôler. Un shalat, c'est un contrôle, qu'on appelle ça une télécommande, bravo. Donc de dominer et de contrôler à la teva, la nature, chez Bechalal Asmani qui se trouve du côté gauche du cœur. Et comment tu arrives à cette domination et ce contrôle de la nature ? Aliede Or Hashem, si tu arrives à amener, te connecter à la lumière d'Hashem, Ameir le Nefesh HaElokit, qui elle-même est constamment présente à l'intérieur de l'âme divine, qui elle aussi fait partie de l'être humain, Shebemocho, qui se trouve elle, par contre, l'âme divine, à la différence de l'âme animale ou de la nature qui se trouve du côté gauche du cœur, une notion qu'on a déjà expliquée, mais qu'on va réexpliquer, et on a dans le cerveau ce qu'on appelle le Nefesh HaElokit, l'âme divine qui est remplie de lumière, et donc il faut arriver à ce que l'âme divine qui est dans le cerveau arrive à prendre le contrôle, l'ishlot à la lèvre, et comment tu vas arriver à contrôler ton cœur. Chez Midbonen, lorsque tu te mets à réfléchir, à approfondir, Bemocho, avec ton cerveau, Begdulat Ensof, la grandeur sans limite d'Hachem, et ça te permet, on va juste lire encore quelques lignes et on va s'arrêter, ça te permettra, Léolide, ça fera naître, si tu réfléchis sur la grandeur d'Hachem, on va à l'époque, aujourd'hui en 2015, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, réfléchir sur la grandeur d'Hachem? Parce que je veux dire, n'ayez pas honte de dire que vous n'en avez rien à faire. Moi non plus d'ailleurs, promets. La grandeur d'Hachem, j'ai suffisamment de problèmes pour m'occuper de sa grandeur, franchement, sérieusement. Non ? La femme, les enfants, le mari, la parnassa, on va encore réfléchir sur la grandeur d'Hachem. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça ? Et donc, malgré tout, c'est ce que lui dit, qu'il dirait que lui avait le temps de s'occuper de ce genre de choses, et donc de faire naître mes binatos de cette réflexion, rouar, un souffle de da'at. Qu'est-ce qu'il y en a comme mot ? Chaque mot ici, c'est 10 cours. Veirat Hashem et de crainte d'Hashem, Bemocho, dans ton cerveau, Liot Sur Mira, qui te permettra de t'éloigner du mal. On s'arrête là pour aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Je répète à notre niveau, dans notre langage, pour pouvoir avancer. Il nous dit finalement ce que vous savez déjà toutes, en tout cas celles qui sont avec nous depuis pas mal de cours déjà, c'est que bon, notre structure extérieure, ou telle que l'expliquent les anatomistes ou les médecins, on la connaît, on a le corps tel qu'il se présente extérieurement, on a à l'intérieur les membres comme le foie, le cœur, les poumons, et ceux qui vont plus loin connaissent aussi l'ADN, et les atomes et les molécules. Mais tout ça, c'est malgré tout l'enveloppe extérieure. Même les parties les plus profondes du corps, celles qu'on ne voit qu'avec un microscope, ne sont encore que les parties extérieures du corps. Là où s'arrête la science profane, ou je préfère dire terrestre, là où s'arrête la science terrestre, commence la science des maîtres d'Israël, qui nous disent qu'à l'intérieur de ce grand tout, commence véritablement l'être. Et l'être, c'est essentiellement deux forces, deux énergies, une qu'on appelle le Nefesh HaBehemi, qui va déterminer ta nature, mot à mot, j'aime pas la traduction parce que c'est péjoratif en français, l'âme animale, qui elle va fixer, déterminer ta nature et tous les besoins de ta nature. Et l'âme animale se trouve essentiellement au niveau du cœur, donc les pulsions, les émotions, les sensations, les envies, c'est dans le cœur, ou dans le cœur du côté gauche du cœur. Et tu as, dans le cerveau, tu as l'âme divine qui, elle, est remplie de lumière, remplie de sagesse, remplie de bon sens, et surtout, comme il le suggère, qui a des forces infinies, ce qui n'est pas le cas de l'âme animale qui, elle, comme un animal, même si elle est très forte, elle reste malgré tout finie, parce qu'elle n'est pas éloquite, elle n'est pas divine, cette âme-là, donc elle a ses limites, tandis que l'âme divine, elle, n'a pas de limites. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est de quoi ? C'est d'arriver à dominer et à contrôler la nature grâce à l'âme divine. Dans un langage plus moderne, faire en sorte que quoi ? Que le cerveau contrôle le cœur. Et comment ? En réfléchissant sur la grandeur d'Hachem. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire tout ça ? Surtout que ça a l'air d'être des notions qui ne sont pas tellement nouvelles. On en a déjà parlé. Et qu'est-ce que cela signifie ? Alors, la première question que je vais demander... Là aussi, c'est un thème qui n'est pas 100% nouveau, mais Min HaShamayim, d'une manière providentielle, c'est notre dernier cours de l'année scolaire. On reprend après que mardi, le premier mardi de Elul. D'ailleurs, si déjà on le dit, vous retiendrez, le prochain cours sera le premier mardi du mois de Elul, qui sera donc le mardi 18 août. Le prochain cours sera le mardi 18 août. Il n'y a plus cours jusqu'au mardi 18 août. Quoi qu'il en soit, donc ça va nous permettre de résumer pas mal de choses. Comment se fait-il qu'ils ne nous disent pas que le principe important, c'est d'arriver à dominer le Yetzer Hara ? Pourquoi parle-t-il de dominer la nature ? Pourquoi dominer le Yetzer Hara ? Pourquoi pas dominer le Yetzer Hara ? Nous, on a toujours compris dans un langage un peu plus simple, plus classique, qu'il y avait le Yetzer Tov, le Yetzer Hara, le bon côté, le mauvais côté, deux énergies, deux pulsions, la bonne pulsion qui me pousse à faire le bien, la mauvaise pulsion qui me pousse à faire le mal. Cette mauvaise pulsion, on l'appelle le Yetzer Hara, la pulsion du mal. Et il y a un combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, et il faut que tu arrives à, si ce n'était pas le Tanya, dans un livre plus classique, qu'est-ce qu'on vous aurait dit ? Klal Gadol Bavodat Hashem, le grand principe de comment servir Hashem, c'est que tu as deux forces, Yetzer Tov, Yetzer Hara, et que tu dois faire en sorte que ton Yetzer Tov arrive à dominer ton Yetzer Hara. C'est comme ça que généralement on explique. On est d'accord ou pas ? Voilà. Maintenant, avec aussi une différence énorme, selon cette explication, c'est que le Yetzer Tov, lui aussi, se trouve dans le cœur. Simplement que dans les livres ou les approches plus classiques, on te dit le Yetzer Tov se trouve du côté droit, le Yetzer Hara se trouve du côté gauche, il y a un conflit entre la gauche et la droite, parce qu'il faut toujours voter à droite, il y a un conflit entre la gauche et la droite, c'est vrai que la gauche pourrit le monde depuis qu'elle a apparu sur Terre, elle détruit l'Occident, elle détruit le monde, mais quoi qu'il en soit, peu importe, tu as la gauche, tu as la droite, il faut arriver à imposer la droite à la gauche. Très bien. Or, vient le Tanya, les élèves du Baal Shem Tov, et ont une vision radicalement différente du vrai problème, où je préfère dire que comme ce sont des maîtres qui s'enracinent dans la vision plus profonde des choses, ils ont une perception plus intérieure des choses. J'ouvre une parenthèse, que ça va être un petit peu aussi indirectement au sujet du couple, parce qu'on va parler de choses profondes, que c'est aujourd'hui la Hiloula du Hari HaKadosh. Donc, on va pouvoir se permettre justement de dire des choses un peu plus profondes que d'habitude peut-être. Mais quoi qu'il en soit, vient le Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov dit « Attends, c'est vrai qu'il y a un conflit entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa. C'est vrai, c'est pas faux. Mais le conflit entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa n'est lui-même que la conséquence d'un conflit qui a commencé avant. Et ce conflit qui a commencé avant, c'est entre le Nefesh HaEloki et le Nefesh HaBehemit, entre le cerveau et le cœur, et entre ce que moi j'appellerais, c'est ma définition à moi qui est en vérité la sienne, mais que je vais utiliser moi, entre deux forces qui sont en moi, ma capacité d'être au-dessus de ma nature et le choix, on pourrait dire l'acceptation, la soumission à ma nature. C'est là que ça commence. Est-ce que tu veux vivre selon ta nature ou tu veux vivre au-delà de ta nature? Et c'est là que commence tout le problème. Parce que tu es doté d'une force qui est infinie. Je vais m'éloigner du langage religieux, l'âme divine, parce que ça ne nous intéresse pas ces notions-là. On ne les comprend pas comme ça. Je vais parler d'un langage plus moderne pour qu'on puisse repartir avec quelque chose dans nos valises. Parce que bon, l'âme divine, l'âme animale, c'est un langage il y a 300 ans. On est tous dotés de forces en nous qui sont véritablement sans limite. Malheureusement, on se connaît beaucoup plus comme étant des êtres très limités. Ces limites, c'est bien sûr notre nature. Et on a aussi le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa. Mais encore une fois, quand c'est que tu tombes à l'intérieur de ce conflit entre le Yetzer HaTov et le Yetzer HaRa, quand tu n'as pas traité le problème à sa racine, est-ce que tu veux être un homme naturel ou surnaturel? Et si tu fais le choix d'être un homme naturel, à ce moment-là, tu rentres dans un nouveau combat qui, lui, est pratiquement perdu d'avance, c'est le combat entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa. Comprenez bien le mécanisme, parce que c'est très très important pour comprendre la suite du cours. Quand vous allez voir un médecin, il peut vous soigner de deux manières. Il peut ne pas déceler l'origine de la maladie, mais par contre, bien en comprendre les conséquences, et il peut d'une certaine manière neutraliser le problème avec des médicaments et un soin artificiel, superficiel, mais qui, bon, aide malgré tout, jusqu'à ce qu'un jour la maladie te ressorte en pleine figure et là, comme un boomerang, comme un ressort qu'on a tenu compressé, quand ça ressort, paf, il n'y a plus aucun médicament qui marche. C'est généralement ce qui se passe lorsque l'on a faussement traité une grave maladie, c'est-à-dire on l'a simplement stoppée à l'extérieur, mais à l'intérieur elle continue à se développer, et puis quand après elle fait surface, on peut rien faire. Ça, c'est l'approche qui dit que c'est un conflit entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa, d'accord? Mais on va voir que c'est très insuffisant. Et il y a le vrai médecin qui lui se pose la question, mais attends, mais pourquoi tu as ces pulsions? Pourquoi tu as envie de ça? Pourquoi? Surtout que tu sais très bien que ce n'est pas bien. Parce qu'au niveau du Yetzer HaTov ou Yetzer HaRa, c'est déjà clair. C'est quoi le conflit entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa? J'ai besoin d'argent. Je vole ou je vole pas? Quelqu'un a des doutes, est-ce que voler c'est bien? Non, tout le monde sait que voler c'est pas bien. Alors pourquoi tu voles? Parce que j'ai besoin d'argent. Et pourquoi tu voles? J'ai besoin d'argent. Donc le Yetzer HaTov, le Yetzer HaRa, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. C'est est-ce que je vais être plus fort que ma tentation, de mon envie, de mon manque. C'est ça le Yetzer HaTov, le Yetzer HaRa. Donc si quelqu'un fait le choix d'aller selon sa nature, à ce moment-là, il n'est pas forcément encore fichu. Être naturel, ce n'est pas forcément être mauvais. 100% naturel, en principe, c'est bon. Mais le problème, c'est que 100% naturel, tu es en danger. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu as décidé de ne plus vivre au-delà de ta nature, à ce moment-là, tu rentres dans un conflit qui, lui, est très très difficile, ce conflit entre Yetzer HaTov et Yetzer HaRa. Pourquoi il est très difficile, ce conflit-là? Parce qu'il te prend là. Il ne te prend pas là, il te prend là. Ça veut dire que t'as beau savoir que c'est pas bien, mais d'accord, mais c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. C'est pour ça que comment nos maîtres vont appeler le Yetzer HaRa, un mot très connu dans le Talmud, ils vont l'appeler Ruach Shtut, un vent de folie. C'est quoi un vent de folie? Ça veut dire que comme un démon qui rentre en toi, et quand il rentre en toi, tu peux monter et descendre ne peut plus rien faire. Mais ce qu'il fallait faire, c'est avant. Avant, ne vis pas selon ta nature. Dépasse-toi constamment, constamment, constamment. Alors ça, c'est ce qu'on va essayer de comprendre un petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? Pour relier ça avec la période qui est la période de Tisha B'Av, nos maîtres nous disent que c'est exactement, maintenant on va aller beaucoup, beaucoup plus loin, c'est exactement la raison de la destruction des deux premiers temples et notre attente du troisième. Nos maîtres disent que le premier temple a été construit par le mérite d'Abraham. Le deuxième temple a été construit par le mérite de Yitzhak. Le troisième temple sera construit par le mérite de Yaakov. Et en disant ça, ils nous ont expliqué pourquoi les deux premiers ont été détruits et pourquoi le troisième ne le sera pas. Et ils nous expliquent aussi pourquoi les deux premiers ont été construits relativement vite et pourquoi ça prend tellement de temps d'attendre la construction du troisième. J'explique. Toujours dans le langage codé des maîtres d'Israël, ils disent « Le premier temple qui a été construit par le mérite d'Abraham, il a été détruit parce que d'Abraham est sorti Ishmaël. » Donc comme du bien est malgré tout sorti du mal, c'est pour ça que le premier temple ne pouvait pas être éternel. Parce que c'était un bien, le mérite d'Abraham, mais qui ne peut pas empêcher la venue d'un mal. Et donc il a été détruit. Le deuxième temple lui aussi a été construit par le mérite d'un bien, d'un grand bien, Yitzhak. Mais comme de Yitzhak est sorti Esav, automatiquement, comme le bien n'était pas un bien éternel, il peut devenir même la matrice d'un mal, un bien qui devient la matrice d'un mal. Vous vous rendez compte? Yitzhak et Rivka deviennent les parents d'Esav, les arrière-parents d'Amalek, les arrière-parents d'Amalek. Le plus grand mal est né d'une matrice de bien. Non mais tu vois bien que le bien, pas seulement que le bien peut ne pas forcément gagner contre le mal, mais le bien peut lui-même engendrer le mal. Dans la Torah, tous les schémas bibliques qui présentent le bien et le mal nous montrent, sans la moindre exception à la règle, que tous les grands mots bibliques, personnages essentiellement, sont tous liés de près ou de loin avec le bien, et les plus grands mots sont issus directement du bien. Amalek, arrière-petit-fils de Yitzhak et de Rivka. Nabuchadnezzar est... C'est qui? Bien sûr, c'est un descendant de Shlomo Ameler et d'une aventure qu'il a eue avec la reine de Saba. Et ça, on va revenir là-dessus. C'est toujours le mal engendré par le bien qui devient lui-même le destructeur du bien qu'il a engendré. Et nos maîtres expliquent. Qui a détruit le premier temple? Nabucodonosor, un Irakien, un proche oriental. Le proche orient va être un jour envahi par la religion de qui? D'Ishmaël. On le vit aujourd'hui, les sunnites, les chiites, etc. Donc comme par hasard, Abraham, par le mérite duquel le premier temple est construit, engendre une force qui va détruire finalement sa source créatrice. Ishmaël détruit Abraham. En ce sens que les Babyloniens, à l'époque qui n'étaient pas encore de la religion d'Ishmaël bien sûr, mais qui vont devenir le terrain de cette religion, puisqu'elle est née vraiment là-bas, c'est eux qui détruisent le premier temple. Yitzhak met au monde Esav. Esav va donner la civilisation d'Édom. Le deuxième temple est construit par le mérite de Esav. Qui détruit le deuxième temple? L'enfant de Yitzhak. À dire que la force grâce à laquelle le deuxième temple est construit est aussi la force grâce à laquelle ou à cause de laquelle le temple est détruit. Le bien qui construit et le bien qui détruit. Nos maîtres nous mettent ici en face d'un schéma incroyable. Quoi? La même force qui construit et la force qui va détruire? Oui, nos maîtres nous disent il y a des forces qui sont positives mais qui sont en même temps destructives. La nature, elle est positive ou elle est négative? Elle est positive. La nature. Mais d'abord, elle a été créée par Hachem, Bereshit Bara Elohim, la nature. Mais le problème, c'est que la nature peut engendrer des choses extraordinaires. Mais ces choses extraordinaires, elles peuvent te détruire. Donnons un exemple dans la vie de tous les jours. Quelqu'un qui est extrêmement sensible. Extrêmement sensible. D'accord. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, c'est une très bonne nature. C'est beaucoup mieux que d'être indifférent, d'être touché par rien, d'être concerné par rien. D'accord? Au contraire. Mais une très très grande sensibilité peut devenir une force destructive. Pourquoi? Parce que quelqu'un de très très sensible, quand il a des manques, à ce moment-là, il peut perdre la tête. Quelqu'un de bon, d'indifférent, que rien ne touche. Donnons un exemple simple. Quelqu'un de très sensible qui a une épreuve, ça peut le détruire. Quelqu'un de très indifférent qui prend toujours tout de haut, la même épreuve, bon ben, il fera avec. Donc, ce qui était avant l'épreuve une qualité chez l'un et un défaut chez l'autre, au moment de l'épreuve peut devenir le défaut chez celui qui avait une qualité et une qualité chez celui qui avait le défaut. C'est-à-dire que la nature, elle est extrêmement capricieuse parce que elle est traite, la nature. Aujourd'hui, elle va dans le bon sens et demain, elle va te poignarder dans le dos. On continue, on n'a encore rien expliqué. Le troisième temple, disent nos maîtres, est construit par le mérite de Yaakov et lui ne sera jamais détruit. Pourquoi disent nos maîtres? Parce que de Yaakov n'est sorti aucun enfant qui s'est exclu du peuple juif. C'est vrai, de lui sont sortis 12 tribus qui n'ont pas arrêté de se disputer. Mais au moins, ils sont tous restés juifs. Et donc, ils ont formé le peuple juif. Avec ses hauts et ses bas, ses amours et ses haines, ses paix et ses querelles. Mais on est quand même toujours là. Bon, maintenant, nos maîtres se posent la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Abraham, lui, n'a pas pu empêcher de faire naître une source qui l'a détruite? Pourquoi Yitzhak, lui non plus, n'a pas pu s'empêcher de faire sortir de lui une force qui l'a détruit? Et pourquoi Yaakov, lui, est arrivé à faire sortir de lui des forces compliquées, mais en tous les cas, qui ne se sont pas retournées contre lui? C'est-à-dire que le troisième temple ne sera pas détruit. Nos maîtres disent, la différence est énorme. Bien sûr, il faut comprendre ce que je dis avec des pincettes, c'est pas comme à notre niveau. Mais le problème est, c'est que le bien que faisait Abraham, c'était un bien qui correspondait aux règles et aux normes de la nature. Le bien que faisait Yitzhak correspondait aux règles et aux normes de la nature. Le bien que faisait Yaakov était complètement surnaturel. D'où on le sait? Eh bien, on le sait de la manière suivante, un midrash qui nous dit, ça aussi on l'a déjà vu, pas dans le contexte que je vous rapporte aujourd'hui. Avant de créer le monde, Hachem a réuni quatre anges, quatre symboles, quatre qualités, pour leur demander pardon avant de créer l'homme, est-ce qu'on crée l'homme, oui ou non. Il y avait l'ange de la rigueur, Tzedek, Yitzhak. Il y avait l'ange de la bonté, Chesed, Abraham. Il y avait l'ange de la paix, Shalom. Il y avait l'ange de la vérité, Emet. Il a demandé à l'ange de la rigueur, est-ce qu'on peut créer l'homme? L'ange a répondu, il n'y a pas de problème. Mitsidi, j'ai testé. Ouais, dans sa nature, un homme a le sens de la justice, il a le sens des règles et des lois. On ne trouvera jamais un pays qui permet dans le même pays qu'on puisse rouler à droite, à gauche, continuer un feu rouge, s'arrêter à un feu vert. Non, toute société sait s'organiser autour d'un minimum de lois et de règles. Donc l'homme a ça dans sa nature. Traduit dans un langage moderne, qu'est-ce que ce midrash d'il y a plus de 2000 ans veut dire? Que la nature elle-même a dans sa nature le sens de l'organisation et de l'ordre. Regardez un nid de fourmis, regardez n'importe quelle société animale, regardez même les plantes, comment qu'elles poussent, regardez le corps, comment qu'il fonctionne. Qu'est-ce que c'est une maladie? Un dérèglement de la nature. Donc, par définition, la nature, elle est tzedek. Par définition, la nature, elle est din. Elle est Yitzhak. Yitzhak, c'est l'apôtre de la rigueur, de la loi, de la règle. Donc, la nature, selon les règles de la rigueur, dit « crée l'homme, il n'y a pas de problème ». Il demande au chesed, donc « crée l'homme ». Bien sûr, mais l'homme, c'est être bon. C'est-à-dire, l'homme, c'est être bon. La réponse, c'est que l'homme va être bon. Non, la nature est bonne. Vous savez pourquoi l'une des comparaisons, quand on compare l'homme à des éléments de ce monde, l'une des comparaisons de l'homme, on le compare à un arbre. Pourquoi on le compare à un arbre? Qui a Adam, et ça savez pourquoi? Parce que le symbole du chesed absolu, c'est un arbre. Qu'est-ce qui fait un arbre? D'accord? Il trime pendant des années pour que le principal de l'arbre ne serve qu'à autrui. Est-ce que l'arbre mange ses fruits? Est-ce qu'il se nourrit de ses fruits? Est-ce qu'il a besoin de ses fruits pour exister? Non. Ça fait 15 ans qu'il pousse pour que vienne un étranger qui, sans se fatiguer, cueille, mange, jette le grognon, les sandailles. Ça veut dire que le chesed est inscrit dans la nature. L'eau, c'est pas du chesed. La lumière, c'est pas du chesed. La chaleur, c'est pas du chesed. La gravité qui nous empêche de tomber, c'est pas du chesed. La nuit qui nous permet d'aller dormir pour reprendre des forces le lendemain, c'est pas du chesed. Mais le monde n'est fondé que sur le principe du chesed. La vie, c'est du chesed. C'est ce que dit le verset. Olam chesed, yibane. Le monde a été créé sur le principe du chesed. La vie, c'est du chesed. Donner la vie, c'est du chesed. Parler à quelqu'un, c'est du chesed. Dire bonjour, c'est du chesed. Le chesed fait partie des lois de la nature. Pourquoi tu dis bonjour à ton voisin? Parce que tu l'aimes? Parce que tu as fait un effort? Parce que c'est naturel, tu réfléchis même pas. Bonjour, comment ça va? Voilà. Quoi, quand Hitler rencontrait un voisin, il ne lui disait pas bonjour? Bien sûr. Quand il voyait un petit chat qui allait se faire écraser, il ne courait pas pour le sauver? Et alors c'était un homme bien? Non, c'est de la nature. La nature, ça fonctionne comme ça, tout simplement. Bien sûr que Hitler pouvait faire du bien à un chat. Bien sûr, il avait un chien qu'il caressait toute la journée. Bien sûr. Mais ce n'était pas parce que c'était un homme bien, parce que la nature est bonne. Et quand quelqu'un il est complètement 100% naturel, il y a dans la nature des choses bonnes. En tout cas, pour le chien, ça lui faisait plaisir de recevoir des caresses, ça c'est clair. Très bien. Maintenant, lui, il s'en fiche, c'est la main de Hitler ou la main du Baal Shem Tov. Sur son poil, ça lui fait la même chose au chien. Très bien. Donc, quoi qu'il en soit, la nature peut être chesed. Donc, Hachem se rend compte que finalement, il veut créer un homme qui, dans sa nature, a le din, la loi, dans sa nature, a le chesed. Donc, finalement, qu'est-ce qu'ils ont inventé, Yitzhak et Abraham? Je vais vous dire dans 5 minutes ce qu'ils ont inventé. Apparemment, ils n'ont rien inventé du tout. Ils ont simplement permis à la nature de s'exprimer jusqu'au bout. On n'a pas fini les surprises. Après, le maître du monde demande à l'ange de la paix et de la vérité. Est-ce qu'on crée l'homme? Surtout pas maître du monde, surtout pas. Je vous une parenthèse, je vous explique le Midrash. Ce Midrash-là, j'ai déjà apporté 10 000 fois dans mes cours. Mais à vous, je vous explique comme jamais je l'ai expliqué. Donc ne croyez pas que c'est déjà entendu, car je ne l'ai encore jamais expliqué comme ça. Les conclusions, les explications réelles. La paix et la vérité, surtout pas. L'homme est incapable de paix, l'homme est incapable de vérité. Nos maîtres posent la question, je ne comprends pas. Si l'argument de ces deux anges, c'est de dire que quoi? Que l'homme fait la guerre ou l'homme ment. Il y a aussi des hommes qui ne font pas très sain, il y a aussi des hommes qui ne font pas de justice. Donc, et je ne pense pas qu'il y en a plus qui mentent, qu'il y en a plus qu'ils sont égoïstes et qu'ils ne font pas de chesed. Donc, pourquoi? Vous comprenez la question est énorme. Non, c'est un midrash. C'est-à-dire, c'est extrêmement profond l'enseignement. Les anges, comme on le sait, c'est un mot codé qui représente les forces de la nature. Et eux parlent au nom de la nature. Qu'est-ce que dit l'ange de la paix? L'ange de la paix dit, ce n'est pas dans la nature d'un homme d'avoir la paix. Non, la nature ne supporte pas la paix. D'accord? Mettez un homme et une femme l'un côté de l'autre, même quand ils n'ont plus de raison de se déchirer, ils se déchirent. C'est comme ça. Quand il n'y a plus de problème, tu t'en cherches. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Des fois, on est effaré de voir que les couples qui se déchirent le plus, c'est ceux qui n'ont vraiment aucune raison de se déchirer. Mais alors, c'est... Pourquoi on s'est passé comme ça? Rien qu'en s'ouvrant, on a envie de se bouffer. Ben c'est ce que nos maîtres appellent la haine gratuite. La haine, c'est par définition le contraire de la paix. Pourquoi on appelle la haine gratuite? Ça veut dire quoi la haine gratuite? Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison. Et pourquoi il n'y a pas de raison? Parce que la nature n'a pas besoin de raison pour être en guerre. La nature, c'est la guerre. Et dites-moi, il n'y a pas une expression en français qui dit la loi de la jungle? Mais oui, la nature, c'est la guerre. C'est le plus fort qui bouffe sans arrêt. Ben, c'est quoi la guerre? C'est pas la guerre entre les forts, parce que les forts, eux, ils s'évitent. Mais c'est quoi la guerre? C'est que chaque fort, il croit qu'il va être le plus fort que le plus faible. Et donc, il lui fait la guerre, par définition. Hitler n'aurait pas envahi l'Europe s'il était sûr de perdre, par définition. Quand tu pars en guerre, c'est que tu te dis « je suis le plus fort ». Et c'est quoi la nature si ce n'est la règle et la loi du plus fort? Évidemment, la nature ne connaît que la loi du plus fort. Et pourquoi en général on est en bonne santé? Parce que nos antimicrobes, anti ce que vous voulez, sont plus forts que les microbes. Et c'est quoi quelqu'un de malade? Le jour où les anticorps, ou peu importe, sont plus forts que les microbes. C'est une guerre. Quand on est en santé, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre. À chaque instant, notre corps est en guerre, surtout avec toute la pollution. Mais si on pouvait voir notre corps à l'intérieur, c'est un véritable champ de bataille. C'est la troisième guerre mondiale qui dure depuis toujours. Mais nous, on s'imagine, c'est normal. C'est pour ça, mes amis, que nos maîtres qui savaient ce qui se passe comme guerre dans un corps humain, ils nous demandent tous les matins de dire « Merci Hachem pour qui arriveri, Zokef Kefoufi, Matira Souri, Modéani Lefanecha. » Bah, c'est normal, j'ai 20 ans, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive à 20 ans? Je peux comprendre qu'on commence à réciter des brachot à 80, 70, mais enfin à 20 ans quand même. C'est normal que je vois. C'est normal, tu vois. Si tu savais combien tes yeux et la pupille des yeux est attaquée 24 heures sur 24 par toutes les saletés qu'il y a dans le monde. Et heureusement que pour l'instant, c'est les soldats de ton œil qui sont plus forts que les rebelles. Parce que le jour où les rebelles seront plus forts, t'as plus d'œil. Ben, c'est toutes les opérations aujourd'hui, de la rétine, machin, etc. C'est quoi? Ben, l'œil s'use à force d'être attaqué. Et c'est quoi un arrêt cardiaque? Ben, les artères sont fatiguées, elles laissent plus passer les aliments et les graisses, ça se bouche et on meurt. C'est ça. Mais on est constamment en combat. Donc l'ange de la paix, il dit la vérité. Il dit, maître du monde, d'après ce qu'on a compris, on a lu ta revue avant de... Ah, parce qu'avant de demander, on leur a donné la revue, c'est quoi le monde qui va être créé? Il dit, maître du monde, on a vu la revue, d'après ce que tu nous expliques, d'après ce qu'on a lu, il n'y a pas de paix dans ce monde. Hein. Donc l'homme qui est le symbole de la création tout entière, il sera constamment en guerre. Il veut être le plus fort. Ben, c'est ce qui se passe dans une relation humaine. D'accord? Chacun veut écraser l'autre. Tu crois que je vais baisser la tête devant toi? Non, mais dis-moi. Donc, la nature n'est pas en paix. On demande à l'ange à la vérité. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, maître du monde? Alors, s'il y a bien une chose qu'il n'y a pas dans le monde que tu as créé, c'est la vérité. Tout le monde ment. Pourquoi il y a plus de menteurs que de tueurs, ou plus de menteurs que d'égoïstes? Non, on ne parle pas de ça, on parle de la nature. Apportez-moi une preuve que le mensonge fait partie de la nature du monde. Mais la preuve, elle est terrible. Qu'est-ce qu'il se fiche de nous, le monde? Mais qu'est-ce qu'il nous ment? Oh là 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 là, le plus grand menteur, c'est la vie. C'est quand on vit, on a l'impression qu'on sera éternel. Qu'est-ce qu'on se fait avoir? On construit, on parle, on vit, on projette, comme si on allait toujours être là. Et demain, va savoir, il ne reste plus rien. On ne sait même pas que tu étais là. Et pourtant... Quand on nous vexe, quand on est blessé, mais arrête, demain tu seras dans le trou et lui aussi, mais qu'est-ce qui va rester de tout ça? Mais on ne vit pas comme ça. Chaque chose, on le prend au sérieux, et nos projets, nos constructions. Prenons l'exemple des Réchaïm. Ceux qui sont dans le mensonge, mais plus que tout autre, c'est les grands Réchaïm, qui s'imaginent qu'ils seront toujours là et que tout leur vol et tout leur fantasme et tout leur pouvoir, ils l'auront toujours. Des fois, je me pose la question, Hitler, il voulait le Reich pour 1000 ans. Mais quoi, il pensait que quoi, qu'il vivrait 1000 ans? Comment ça veut dire quoi? Je fais quelque chose pour 1000 ans. Quand à l'arrière, je fais quelque chose de bien, le fantasme ne dérange personne. Mais quand tu fais le mal, quoi, tu tues 50 millions de personnes pour le Reich de 1000 ans, mais toi, dans 10 ans, tu seras une crotte sous la terre. Oui, c'est pire qu'une crotte, bien sûr. Alors je comprends pas. Mais pourquoi? Mais parce que le monde nous ment, parce que Hitler vivait sa vie comme s'il serait éternel. Mais le plus grand menteur, c'est la nature. Hachem a mis volontairement dans la nature le mensonge. Il a mis volontairement dans la nature la guerre. Et voilà que on s'oppose. Deux qui disent tu peux créer l'homme parce que dans la nature il y a Chesed et il y a Tzedek. Et deux qui disent ne crée pas parce que dans la nature il n'y a pas la paix et il n'y a pas le shalom. Et dites-moi, Yaakov, lui, dont la tribu va être Emet, Titen Emet, les Yaakov. Yaakov est l'homme du Emet. Et il va être aussi l'homme du shalom. Pourquoi? Parce que sauf qu'elle sauf, il va être constamment en conflit avec le monde entier. Déjà dans le ventre de sa mère, il est né dans un état de guerre. Il va être constamment en guerre. Et il va avoir la guerre avec son frère, avec ses parents, avec ses femmes, avec ses enfants, avec ses oncles, avec tout le monde, il est en guerre. Et finalement, il s'en sort pas trop mal. Vous l'avez vu tuer quelqu'un? Vous l'avez vu haïr quelqu'un? Finalement, il est plus ou moins arrivé à gérer quand même hein, ces conflits-là. Il n'est pas très guerrier, il n'est pas très tueur et pas très conquérant. Il gère. Ça veut dire que Yaakov, qu'est-ce qu'il est arrivé à faire? À obtenir les deux qualités au sujet desquelles la nature elle-même dit il n'y a pas d'abonné au numéro que vous demandez. La nature ne connaît ni la vérité ni la paix. Et voilà tout d'un coup Yaakov, un homme, qui dit, ben moi, les deux qualités qui ne sont pas dans la nature, c'est les deux qualités que je vais prendre. Emet et Shalom. Alors maintenant, vous allez comprendre ce qui se passe. Le problème, c'est que là, on a complètement descendu Abraham et Yitzhak. Parce que finalement, ce sont des justes naturels. Mais d'abord, comprenons que c'est la raison pour laquelle les deux premiers temples ont été détruits. Encore tellement à dire que prions pour y arriver en un quart d'heure, 20 minutes. Maintenant, je vais vous expliquer. Mais ça, ça pourrait être le sujet d'un cours et de 10 cours, mais je vais l'expliquer très très brièvement. Malgré tout, Avram et Yitzhak sont grands quand même, mais infiniment moins grands que Yaakov malgré tout. Deux temples construits et détruits, mais grands quand même. Pourquoi? Parce que, eux, leur grandeur n'est pas pour Avram d'avoir été chesed et Yitzhak d'avoir été din. Parce que les deux l'avaient dans leur nature. Mais leur grandeur est, c'est qu'ils n'ont pas empêché toutes les attaques de ce monde de détruire leur nature. Donnez un exemple simple, très simple. Prenons le cas du chesed, après vous copierez pour les autres. Moi je suis né avec une nature de chesed, d'accord? J'arrive dans un nouveau quartier, j'ai envie de faire du bien, je vois que personne ne fait grand chose, etc. J'ai envie, tiens, allez, je vais rentrer dans les activités communautaires. Je vais donner de mon temps, je vais parler à mon mari ou à mon épouse, écoute, tu sais, tu es d'accord, regarde, on ne va pas vivre que pour nous, comme tout le monde, sinon la différence entre nous et les autres, bien, on va essayer de s'investir un peu pour la communauté, pour eux, très bien. Donc ça, c'est sûr que ce sont des gens de chesed, ils vont sacrifier de leur temps de couple, de leur temps de repos, de leur temps de loisirs, des gens de chesed, très bien. Mais tout le monde sait qu'à partir du moment où tu commences à faire quelque chose, tu ne récoltes que des problèmes, très bien. De l'ingratitude, des trahisons, des critiques, des accusations et tout ce que ça. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe généralement? Si quelqu'un est chesed au premier niveau, dès qu'il va commencer à avoir des problèmes, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va. Très bien. Je serai chesed avec mon image devant la glace. D'accord. Très bien. Je me dirai à moi, t'es le plus beau, je ne dirai plus aux autres. Très bien. Comme ça, lui, il ne va pas me critiquer. Il ne parle pas. Et donc il s'arrête. La grandeur d'Abraham, c'est malgré toutes les attaques qu'il a eues dans sa vie pour le décourager de faire du bien aux hommes, il ne s'est jamais découragé. Il dit, moi je continue à y croire. Ça veut dire, le bien qu'il a fait selon sa nature. Mais sa grandeur, c'est qu'il n'a pas laissé toutes les attaques de ce monde le décourager de continuer. Donnons un exemple simple. On fait notre alia. Quand on arrive ici, je veux dire, on est comment c'est comme à Tembel, complètement Tembel. Ah, on a fait notre alliage. D'accord. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, mon vieux. Tu ne sais pas. Tu n'as même pas compris encore. Il y en a qui arrivent à dormir encore pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et puis chacun se réveille. Le cauchemar, le gars. Alors là, on va tester vraiment le... Là, on teste. Là, on va voir ceux qui ont fait l'alliage en Israël et ceux qui ont fait l'alliage dans leur fantasme. Ben, est-ce qu'ils ont pris un billet aller simple ou un aller-retour? Ou bien même ceux qui restent mais aigris. Ouais. C'est quoi une alliée réussie? Chaque jour qui passe, chaque claque qu'on prend, chaque déception, on est encore plus content d'y être qu'avant et on se dit, oh, dommage qu'on n'ait pas vu plus tôt. Pourquoi? Parce qu'on comprend que quoi? Que là, au contraire, notre alliée, on va la construire, notre alliée, une vraie alliée qui vient des tripes et pas de nos fantasmes. Donc, c'est un exemple.
Donc ça, c'est la grandeur d'Abraham et Yitzhak. Mais malgré tout, pour revenir à notre cours, dans la mesure où, malgré leur grandeur, ce n'était que leur nature, ils ont eu la terrible épreuve, voire même la terrible surprise, et voire plus encore la terrible souffrance, de voir que leur bien est devenu la matrice d'un mal incroyable. La nature engendre le Yetzer Hara. La nature d'Abraham, qui était bonne, a engendré le Yetzer Hara que la Torah nomme Ishmaël. La nature de Yitzhak, extraordinaire, qui était digne, indigne de Gdusha, va engendrer le Yetzer Hara que la Torah appelle Esav. Mais comme Yaakov, lui, il est venu le troisième, il s'est posé la question, il dit, mais pourquoi les deux premiers ont raté? Puisque moi, je ne me prétends pas mieux que Abraham. Je ne me prétends pas mieux que mon père ou que mon grand-père. J'ai compris. Oh, quelle leçon! Quand tu te contentes d'être bien au niveau de ta nature, tu vas devenir un monstre. Ou tu vas engendrer un monstre. Dis-moi, je ne vais pas me faire avoir comme les deux premiers. Je vais chercher quelque chose qui n'est pas du tout dans ma nature. Qu'est-ce qui n'est pas dans la nature du monde? La vérité et la paix. Il a cherché quelque chose qui n'est pas dans la nature et il s'en est sorti. C'est pour ça qu'on nous, on nous appelle les enfants de Yaakov et on ne nous appelle pas les enfants d'Abraham ou de Yitzhak. On s'appelle Bnei Israël et non Bnei Abraham et non Bnei Yitzhak. Alors, on comprend pourquoi les deux premiers temples ont été détruits. On comprend pourquoi le troisième ne sera pas détruit. Mais maintenant, essayons de ramener ça plus à nous. Et qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, comme je vous l'ai expliqué des centaines de fois, et je vais rester vraiment très basique. Comment notre vie, à nous tous, elle fonctionne? Elle fonctionne comme le cosmos. Dans le cosmos, il y a plein d'astres lumineux, c'est vrai. Des milliards d'étoiles, des milliards de planètes qui brillent. Et il y a aussi ce qu'on appelle des trous noirs, des antilumières. Ça veut dire qu'ils absorbent, ils broient la lumière et ils transforment tout en noir. Un trou noir, c'est des antimatières aussi. Dès que tu rentres là-bas, tu disparais. Une vie, c'est comme ça. Une vie, elle est construite de plein de choses qui sont mes étoiles, mes soleils, mes astres lumineux, mes bons moments, mes bonnes choses, mes réussites, mes réalisations. Mais dans une vie, il y a aussi plein de trous noirs. Ça veut dire qu'il y a des choses que je ne sais pas, je ne comprends pas. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. À chaque fois que j'essaie, je me sens désintégré. Maintenant, il faut savoir, mes amis, que j'ai parlé du cosmos. Donc je parle de la nature humaine, qui est un petit cosmos. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a des tas de domaines dans lesquels on brille, on est plein de lumière, on est plein de joie, on est plein d'enthousiasme, on est plein de... Et puis on a des trous noirs, on ne sait pas pourquoi. C'est comme ça, pourquoi le maître du monde a décidé qu'il y a des trous noirs dans le cosmos? Il y a des trous noirs, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Bon, dans le cosmos, quand il y a une fusée ou un satellite, peu importe qui tombe dans le cosmos, qu'est-ce qu'on va lui apprendre? À éviter les trous noirs. Ben, pour des cosmonautes, les astronautes, c'est possible. Mais le problème, c'est que dans une vie, c'est impossible. Tu ne peux pas le fuir, le trou noir. Parce que des fois, le trou noir, il est tellement proche de toi, il est là. Le trou noir, ça peut être une épouse, ça peut être un mari, ça peut être les enfants, ça peut être une maladie, ça peut être un problème financier, un problème matériel, un problème de parents, un problème de belle-mère, un problème de voisin. Le trou noir, il est là. Le grand Ari HaKadosh, j'avais promis qu'on en parlerait aujourd'hui, je l'ai déjà dit cet enseignement, mais c'est comme sur le Saïloula, je le redis, nous a prévenu qu'au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la Géoula, les trous noirs vont devenir de plus en plus proches de nous. Avant, les trous noirs, c'était les Romains. Après, c'était les Cosaques. Après, c'était les Inquisiteurs, les Croisés. Les trous noirs sont toujours venus, tout d'un coup, il y a des communautés juives qui prospéraient, puis tout d'un coup, les hordes de Cosaques arrivent, et les femmes éventrées, les enfants décapités, les... Tout s'écroule. Le cauchemar. Pourquoi? C'était pourtant, c'était Yankel, le violon sur le toit. Les Cosaques arrivent. Le trou noir. Mais les trous noirs venaient de l'extérieur. Les juifs, entre eux, ils étaient solides. Les couples, n'en parlons pas. Les familles, c'était la tombe, c'était indestructible. C'est ça que toutes les forces qui venaient de l'extérieur ne pouvaient pas nous mettre à genoux. Pourquoi ? Parce qu'on était forts, nous. Le Ari HaKadosh, il y a 5 siècles, nous a révélé que juste avant la délivrance finale, quand tous les trous noirs extérieurs auront essayé de nous mettre à genoux et auront vu qu'ils sont incapables de le faire, les trous noirs, ils vont se révéler à l'intérieur d'Israël. À l'intérieur. C'est des trous noirs, tu vis avec, tu ne peux pas y échapper. Il est là. Tous les matins, tu te lèves, il est en face de toi. Elle est là. Et les enfants, ils sont là. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les massacrer, les enfants? Ils sont là. Le trou noir, l'enfant, il est là. Tu t'imagines? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je regrette t'avoir créé. En fait, c'est lui le premier qui te le dit. Je ne vous ai pas demandé de me mettre au monde. Comment c'est possible? Comment je peux mettre un enfant comme ça au monde? Mais comment c'est possible? C'est pas possible. Comment il est sorti de moi, celui-là? Le trou noir, il est là, très proche de toi. Des fois, le trou noir, c'est toi-même. T'as des moments où tout d'un coup, t'es dépressif. Je veux dire, c'est la chance des psychologues aujourd'hui. C'est le seul métier qui marche aujourd'hui. Maintenant, on en a inventé un autre, maintenant c'est le coaching. Ah, le coach aujourd'hui. Ça, c'est le plus grand révélateur qu'on ait une génération de fous. Tout le monde est coach aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Un nouveau métier qui est né, qui surfe sur la folie des gens. Le coach. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, un coach, en plus c'était quelqu'un que je connaissais. Je lui ai dit, tiens, du coach, c'est quoi le coach? Alors je lui ai téléphoné, je lui ai dit, tu peux expliquer? Parce que moi, je suis un nul, je comprends pas. Je lui ai dit, c'est quoi coach? Alors il m'a expliqué, je remets les gens en forme. Je remets les gens en forme. Je ne savais pas que tu avais ces capacités, toi, quand je t'ai connu, tu avais un tas de problèmes. Et d'après ce que je sais, il n'y a pas si longtemps, tu en avais encore. Comme je lui ai dit, j'ai connu un. Mais maman, je le connais encore. Quelqu'un, il a divorcé 5 fois, c'est un des spécialistes du couple en France. Un des spécialistes. Il a une clientèle comme ça, tu fais 6 mois d'attente pour aller voir quand tu as un problème de couple. Il a divorcé 5 fois. Je lui ai dit, c'est pas possible. Ouais, mais d'accord, mais il a pas résolu le problème encore, lui, il a divorcé 5 fois. Mais ça existe. Donc maintenant, pourquoi tellement de coach? Parce qu'il n'y a pas une vie sans trou noir aujourd'hui. D'accord. Et quand le trou noir, c'est moi-même, il y a des moments où je suis très bien, des moments où je m'effondre. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, je m'effondre. Je m'effondre. Alors là, comment tu vas le fuir, ce trou noir? Alors le problème est, c'est que généralement, qu'est-ce qu'on fait, nous? Ben, on fait l'astronaute. Quoi? On essaye d'aller vers les astres qui sont bien, et le trou noir, bon, ben, quand il nous tient, ça va, mais puis on le fuit. Mais on n'essaye pas de résoudre le problème. Parce qu'on sent qu'on n'a pas les forces pour. On n'arrive pas. On n'arrive pas, on ne peut pas se tenir face à cet enfant, face à cet homme, face à cette femme, face à ce problème. On n'arrive pas. Dès que je suis devant lui, je sens qu'il me désintègre. Je tiens à ma vie. Il me désintègre, le bonhomme. Il me désintègre. Il a tué en moi la femme, la mère, l'épouse. J'ai plus rien. Rien que je suis devant lui, j'existe plus. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire un coup de volant avec ma fusée. Et puis, je sais pas, je vais aller à des cours, je vais aller faire du sport, je vais m'inscrire dans un roug, je vais faire les magasins. Je lui dis, rentre le plus tard possible. Mon trou noir, l'homme de ma vie. Vous imaginez? Alors, c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais le problème est, c'est que si tu fais ça, et là, payez-moi des milliards, parce que moi, je suis un vrai coach. D'accord? Si vous faites ça, vous ne savez pas dans quel danger vous vous mettez. Oh! Tu donnes du crédit à ta nature? Ça veut dire que quoi? Tu refuses de te surpasser pour affronter le problème droit dans les yeux? Tu ne sais pas ce que ta nature, elle te réserve. Elle va t'engendrer un vent de folie. Tu sais pas où tu vas te retrouver. Attention, la nature est un piège. Attention, tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Par contre, si tu essaies d'être comme un Yaakov, tu viens dans le trou noir, viens. On va essayer de voir comment on peut résoudre le problème. D'accord, la première fois, au bout de 5 minutes, tu étais désintégré. Rien qui t'a regardé avec un tel dédain, avec une telle autosuffisance. Il t'a tellement fait sentir que là, tu ne fais pas le poids. Que tu peux pas. Il te faut 2 ans pour recommencer nafchiquement à te préparer à surmonter ton trou noir. Tu vas y arriver ou non? Mais c'est là qu'est le vrai combat. Et comment? Comment je vais arriver? Il dit la chose suivante. Réfléchis. Réfléchis avec ta tête. Laisse le cœur de côté, l'émotion, le ressenti. Mais chaque fois que je suis devant le problème, je me sens désintégré. Non, c'est ton cœur qui est désintégré. Bloque ton cœur. Réfléchis avec ta tête. Et si tu réfléchis avec ta tête, tu vas voir que tu as des forces infinies dans ta tête. Infinies. Parce que Hachem ne met jamais quelqu'un devant un problème qu'il ne peut pas résoudre. C'est impossible. Ici, tu as des forces incroyables ici. L'infini se trouve là. Mais tu es beaucoup plus fort que ton trou noir. Beaucoup, beaucoup plus fort. Le problème, c'est que quoi? Tu n'arrives pas à sortir de là. Sors du cœur. Élève-toi jusqu'à la tête. Monte, 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 monte. Et prends le problème ici. Et tu verras que tu as des forces infinies. Infinies ici. Ne lâche pas. Ne lâche pas prise. Sois fort ici. Crois-y. Pense, réfléchis, reviens. Et tu verras que tu résous le problème. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à dévoiler au fur et à mesure en toi une seconde nature. La seconde nature, elle naît ici. Elle ne naît pas là. Tu commences à percevoir que finalement, tu as des forces absolument incroyables. Quand tu arrives à tenir tête au problème, à regarder devant les yeux. Non, je ne te fuis pas. Tu ne me fais pas peur. Je vais gagner. Tu verras. Et si moi, je gagne, en vérité, tout le monde gagne. Je n'ai pas peur. Je vais gagner. À ce moment-là, tu deviens un Yaakov. Et tu construis ton troisième Beth Amikdash. Mes amis, si je devais donner une analogie par rapport à la vie d'aujourd'hui, par rapport à ce que dit le Ari Akadosh, que juste avant la délivrance finale, les trous noirs vont s'attaquer à la structure fondamentale d'Israël qui est la maison juive. Si je dois faire une analogie entre la destruction du premier temple, c'est une maison qui s'écroule. Le deuxième temple, c'est encore une maison qui s'écroule. Et le troisième temple, c'est une maison qui ne sera pas détruite. Finalement, ramener à nous, ça veut dire quoi? Combien il faut se battre pour que sa maison, celle qu'on a commencé à construire, elle soit éternelle. Mais pour que tu construises cette maison, il faut que tu n'aies pas peur de la nature. Il faut que tu n'aies pas peur des trous noirs. Parce que de toute façon, si ce n'est pas avec lui ou avec elle ou avec ses enfants ou dans cet endroit ou avec ses voisins, avec ce problème de parnassa, avec cette maladie, avec ton tempérament, ton caractère, tu crois qu'ailleurs, ça sera meilleur. Un trou noir, là où on va, on l'emmène avec soi. Et plus de temps tu prendras pour t'affronter à lui, et plus ça sera difficile parce qu'entre temps tu vieillis, tu t'uses, tu as appris à t'accommoder des problèmes. Et puis comme on le voit, finalement, comme je dis toujours, pourquoi les enfants, les jeunes, ils sont toujours bêtement et stupidement envie de les gifler, nous à nos âges. Toujours. Et pourquoi au fur et à mesure que tu vieillis, le sourire... Pourquoi les vieux, ils sont comme ça? Et pourquoi les jeunes, ils sont comme ça? D'accord. Et parce que les jeunes, ils n'ont pas encore pris de claque. Et ils y croient encore. Mais nous, on a pris tellement de claques dans notre vie que quoi? Qu'on n'y croit plus. On a baissé les bras. Et comment on voit quelqu'un, il a baissé les bras? Voilà. Parce que les bras, on ne le voit pas vraiment. Mais là, c'est pas trompeur. Vous allez voir, vous allez toutes maintenant, avant de sortir, passer une heure devant la glace à trouver un rouge à lèvres qui fait que même quand je suis comme ça, ça se voit comme ça. Allez voir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais à force de se faire avoir, eh ben, on a baissé les bras, on n'y croit plus, c'est ça, on a vieilli. On n'y croit plus. Et quand on commence à ne plus y croire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que là, le roi Shtout, il va venir. Qu'est-ce qu'il attend, le roi Shtout? Il attend que tu sois en état de faiblesse. Vous savez, dans une autre halakha que je ramène souvent, parce que moi, c'est mon halakha modèle, mon halakha phare, là où je pense que les maîtres d'Israël ont caché tout le secret de la connaissance profonde de l'homme. Je reviens sur une chose que j'ai expliquée des milliards de fois, mais à chaque fois, avec un peu plus d'épices. Nos maîtres, comme vous le savez, interdisent à un homme et une femme de s'isoler dans un endroit où il pourrait y avoir. Mais sans nuance, un homme n'a pas le droit de s'isoler avec une femme à partir de l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 120 ans moins un jour. Tu t'imagines la mémère? Le bonhomme, il a 40 ans avec une mémère de 120 ans. Et une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un homme à partir de l'âge de 9 ans jusqu'à 120 ans moins un jour. fois, je me dis, mais vraiment, est-ce que vraiment les maîtres d'Israël pensent que les juifs ou les hommes sont à ce point obsédés et obscènes? Une fille de 3 ans, quand même. Bon, c'est vrai qu'il y a des pédophiles. Mais enfin, la Torah n'a pas été donnée pour les pédophiles. Parce que de toute façon, un pédophile, il s'en fiche de ce qu'il y a dans la Torah. Vous imaginez une mère de 120 ans avec un bonhomme de 40 ou 45 ans, je veux dire. Parce que, je veux dire, s'il en a 120 lui aussi, de toute façon, il ne pourra rien faire. Donc, il a forcément, pour pouvoir faire, il a forcément l'âge. Une mère de 120 ans, mais franchement. Et vous savez ce que nous révèlent nos maîtres? On va te dire, mais espèce de crétin, mais t'as rien compris. Mais évidemment que dans un cas normal, il n'y a aucune chance. Mais chacun dans sa vie a le petit moment de défaillance où le roi Shtout l'attend. Le roi Shtout, c'est pas toi, mais le roi Shtout, quand c'est qu'il va rentrer? Quand tu es affaibli, quand tu as baissé les bras, quand tu es désespéré, quand tu n'y crois plus. À ce moment, tu n'es plus du tout responsable de ce que tu vas faire. Ta responsabilité, c'est oui, c'est d'avoir baissé les bras. Mais après, hop, tu es pris en charge par un démon. Et il va te montrer, oui, qu'à 40 ans, ouais, tu peux aller avec une fille de 3 ans. Quand tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu t'es fait avoir, pauvre idiot? Parce que tu n'as pas cru dans ce que les maîtres d'Israël ont dit. C'est que chaque humain, il a son moment de défaillance où il ne répond plus de lui-même. Et fais pas le malin avec ce moment-là. Parce que tout grand que tu es, tu vas te retrouver comme un idiot avec un bébé de 3 ans. Mais ça n'arrivera pas à moi. Mais non, ça n'arrive pas à quelqu'un de normal. Mais qu'est-ce que tu fais du roi Shtout? Tu seras plus fort que lui? Non. Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, nous n'avons pas le choix. Ou lorsqu'on a un problème, on décide de le résoudre avec sa tête et pas avec son cœur. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à résoudre les problèmes? C'est parce que quand enfin on décide de les résoudre, on vient avec nos cœurs, avec nos rancunes, nos tristesses, nos déceptions, nos trahisons. Est-ce qu'il m'a dit? Est-ce qu'il m'a pas donné? Est-ce qu'il m'a fait? Est-ce qu'il m'a pas fait? Alors évidemment, dès les premières 5 minutes, ça explose. Non. Viens pas avec ton cœur, viens avec ta tête. D'accord? Tu viens froid comme un glaçon. Tu deviens Ashkenaz. En plein mois d'août, tu mets le bonnet, les chats, les gants, parce que c'est tellement froid un Ashkenaz, que même en plein mois d'août, tu prends une pneumonie. Alors, tu rentres comme ça, froid. Tu dis à ton mari ou à ta femme, je suis né à Moscou. Tu t'imagines la fille de Casablanca, elle est née à Moscou. Je suis né à Moscou. Tu peux y aller. Je ressens plus rien. Viens, on va parler. Et puis tu vois que ça va marcher. Pourquoi? Parce que tu révèles des forces incroyables à son bras. Parce que si on savait les forces qu'on a dans notre tête, si on savait ce qu'on est capable de faire, si on est capable de mettre son cœur de côté et d'aller avec sa tête. Alors évidemment, la première fois, ça va pas marcher. La deuxième fois, ça va marcher. Mais après, ça va marcher. Mais non, je prends cet exemple-là. Mais c'est vrai dans tous les exemples de la vie. Toutes les difficultés qu'on a, c'est pas en leur tournant le dos qu'on... Et généralement, écoutez-moi bien, c'est l'avant-dernière phrase, je termine sur une phrase positive. Les plus grandes claques qu'on prend dans sa vie, elles sont proportionnelles au nombre de fois qu'on a tourné le dos à un problème. Mais alors quand on prend la claque, elle fait tellement mal que c'est pas sûr qu'on arrivera à se relever. Plus tu tournes le dos au problème, c'est-à-dire plus que tu vas selon ta nature, et la nature... Elle a peur d'affronter un problème parce qu'elle a peur de se dépasser, parce qu'elle se confine dans ses limites. Plus tu tournes le dos et plus quand tu vas prendre la figure, tu ne sais même pas d'où ça va sortir. Donc tu es obligé de résoudre le problème. Et la phrase positive est, c'est qu'il faut savoir la chose suivante. Et c'est ce que nous dit le Ari HaKadosh. Comment c'est possible? Précisément, la génération juste avant la délivrance va vivre tellement de problèmes à l'intérieur du peuple juif, dans les familles, à l'intérieur du peuple, etc. Pourquoi? Parce que justement... Zele ou Matze. Comme on approche la délivrance finale, on reçoit aussi des forces incroyables. Et selon le principe de l'équilibre entre les forces, plus on reçoit des grandes forces et plus les forces contraires sont grandes aussi. Ce qui veut dire que, aussi incroyable que ça puisse le paraître, précisément dans nos générations où on se sent tellement fragilisé dans les couples, dans les familles, dans le peuple, c'est précisément dans cette génération qu'on possède des forces pour devenir les couples les plus extraordinaires, les familles les plus extraordinaires, le peuple le plus extraordinaire, puisque c'est le peuple de la délivrance. Il faut simplement y croire et le savoir. C'est à l'intérieur de nous, c'est dans notre cerveau. C'est ce qui va se dévoiler réellement au moment de la délivrance finale, où on va se rendre compte, comme je dis toujours, et c'est le mot de la fin, que finalement, on était des géants cachés à l'intérieur d'un nain. On se croit des nains, mais en vérité, on est des géants. Il suffit d'y croire et on peut voir qu'il n'y a aucun problème qui peut tenir devant nous si uniquement on croit et on sait et on découvre qu'on est véritablement des géants. Bezrat Hashem, on ne se souhaite pas de fêter Tisha B'Av car on ne fêtera pas Tisha B'Av. Je tiens, puisque le temps va être construit d'ici là, si jamais il nous faisait le coup, une fois de plus, d'oublier de venir avant Tisha B'Av, faire du Mashiach bien sûr, je vous donne rendez-vous à Tisha B'Av à 18h, un cours mixte ici sur Tisha B'Av, sur la délivrance finale. Amen. Oui.